Un peu de sérieux, que diable. Bonsoir et bienvenue dans la salle 101, salle 101, l'émission science fictionnesque de Fréquence Paris Pluriel 106.3, présentée comme tous les jeudis de 18h à 19h par la famille Abdaloff au grand complet, enregistrée en public dans les conditions du direct tous les mardis de 21h25 à 22h25 au bar Amine, 64 rue de Charenton, dans le 2e arrondissement de Paris, devant un public nombreux ce soir. De mon côté, je parlerai de champagne, de cadavres et de putes avec le nouveau roman de Tristan Edin de Vaquet, auto-publié, qui s'appelle donc Du champagne, un cadavre et des putes, et qui est bien.
Un ouvrage qui se passe dans un coin de la France qui est particulièrement riant,
qui se passe entre autres dans un coin de la France particulièrement riant, puisqu'il s'agit du fin fond de l'Auvergne, je crois, un peu de choses près.
Vous m'avez dit les Combrailles.
Oh, c'est ça, les Combrailles. Mais enfin, on peut dire que c'est le fin fond de l'Auvergne, les Combrailles, non? C'est différent? Vous avez autre chose à rajouter? Vous qui êtes de là-bas, vous qui connaissez bien la région, Georgette, c'est bien l'Auvergne, je suis pas fou.
Alors, en fait, moi j'aime beaucoup les Combrailles, mais vous m'avez dit que Tristan Edin de Vaquet n'aimait pas.
Bah, en tout cas, je ne sais pas si lui aime ou pas, mais son personnage n'aime pas beaucoup. On verra pourquoi, justement. Son personnage qui est mort, d'ailleurs, mais enfin, bon, on en parlera aussi tout à l'heure.
Je suis très impatiente.
Déflorer le sujet, mais j'insiste quand même, les Combrailles, c'est bien l'Auvergne.
Oui, très bien.
Vous êtes sûr de ça?
C'est pas très très loin de l'endroit où j'ai grandi, c'est bien.
Donc vous êtes bien de la base. Mais vous avez l'air plutôt normal et pas... finalement même assez éveillé.
Oui, je pense que oui, globalement ça s'est plutôt pas trop mal passé, mais peut-être parce que j'ai fini par partir.
C'est ça, et c'est curieux, c'est exactement le destin du personnage principal du roman de Tristan Edin de Vaquet, qui, il est précisé sur la quatrième de couverture, a une pagination plus importante que Guerre et Paix et Les Misérables, donc c'est dire sa qualité.
Ah, c'est un très bel argument.
Sachant qu'il ne s'agit évidemment que du tome 1, il y aura vraisemblablement 4 ou 5 ou 6 tomes, je ne sais pas précisément, d'ailleurs l'auteur ne le sait pas encore. Et c'est un roman un peu inclassable, il y a une forte teneur en roman policier, mais comme Tristan Edin de Vaquet, pardon, ne fait rien comme tout le monde et fait un petit peu parfois comme Sade, je parle du Marquis de Sade, eh bien il y a des passages d'action qui sont suivis de pages philosophiques. Les pages philosophiques sont relativement absentes de ce roman-là, même s'il y a des passages qui, à mon avis, en relèvent quand même. Et je pense que la suite de ce roman rentrera peut-être un petit peu plus dans le vif du sujet de ce point de vue-là. Mais c'est très bien, et on en parlera tout à l'heure. Ça fait beaucoup de choses au programme de la salle 101. Ce qui ne nous empêchera pas de décerner nos testicules d'or.
Salle 101, salle 101, salle 101.
De retour dans la salle 101, salle 100, l'émission science-fictionnesque de Fréquence Paris Pluriel 106.3. Je vais abréger car nous n'avons pas le temps, figurez-vous qu'il est temps de parler du dernier roman de Tristan Edin de Vaquet. Tristan Edin de Vaquet que nous aimons bien, la salle 101, que nous avons interviewé régulièrement, ce qui nous permet d'ailleurs de signaler que les interviews de Tristan Edin de Vaquet à la salle 101 sont disponibles sur le site de la salle 101, www.rfpp.net, non ça c'est la radio, www.salle101.org, pardon, site sur lequel tu retrouveras la totalité des émissions, mais aussi donc les interviews de Tristan Edin de Vaquet qu'il nous avait donné à l'époque où il avait pu sortir son premier roman, rappelez-vous, qui s'appelait Je gagne toujours à la fin, sorti au Diable Vauvert, roman qui s'était globalement mal terminé, il avait eu quelques déboires avec son éditeur, et ce qui lui avait surtout conduit à écrire son pamphlet « Mon éditeur est un enculé », en l'occurrence « Mon éditrice est une enculée », ce qui nous l'avait rendu très sympathique. On avait parlé aussi avec Tristan Edin de Vaquet après les attentats de Charlie Hebdo, avec son extraordinaire pamphlet « Je ne suis pas Charlie, je suis Vaquet », qui en quelque sorte remettait au placard à peu près tout ce qui avait été écrit sur les attentats de Charlie Hebdo et qui curieusement a été assez peu repris, assez peu commenté. C'est bien dommage parce que si vous cherchez un livre qui résume parfaitement cette situation-là, eh bien, ne cherchez plus, vous l'avez trouvé. C'est Vaquet qu'il vous faut. Vaquet revient donc avec un roman qui s'appelle assez sobrement et avec beaucoup de subtilité, il faut le dire, pas mal de classe, Du champagne, un cadavre et des putes, tome 1, un roman donc entièrement autoproduit qui, comme le vend lui-même l'auteur, a une pagination qui dépasse celle des Misérables et de Guerre et Paix, qui sera probablement finalement vendu sous la forme de 3 ou 4 tomes ou plus, si le cœur lui en dit. C'est là l'intérêt de s'auto-éditer et d'être punk jusqu'au bout des ongles et donc de tout faire soi-même, c'est qu'on n'a pas de contraintes et on fait absolument ce qu'on veut. On précise que si Vaquet s'autoproduit, il le fait évidemment avec soin, avec beaucoup de soin, et que l'objet est très beau, très réussi, très bien maquetté, très bien mis en page.
Bien évidemment, vous allez le prêter.
Et je vais vous le prêter absolument dès que je le rapporterai ici même physiquement, parce que là, il est chez moi au chaud, car vous savez, ces livres, c'est fragile, ça ne supporte pas le froid et la neige. Vaquet, donc, pour vous procurer ses œuvres musicales ou littéraires, il il faut vous rendre sur son site, hein, www.vaquette.org, et vous aurez le plaisir de lui donner du pognon, comme il dit, directement à lui. Il n'y aura pas d'intermédiaire, c'est-à-dire que les 20 euros que vous dépenserez pour son livre, ce sera pour sa poche, et avec ça, soyez assurés, absolument 20 euros, mais bien...
si on accepte la commission de la banque, tout de
soyez...
même.
Ah, peut-être que la banque tousse une commission, je ne sais pas, ça. Encore que je ne serais pas surpris que Vaquette ait soudoyé son banquier pour finalement prendre une commission tout à fait ridicule de la part du banquier. Bref, Vaquette, c'est l'autoproduction, mais je précise, c'est vraiment l'autoproduction très très bien faite. Donc rendez-vous sur vaquette.org et vous en saurez plus sur l'univers du monsieur. Si vous ne connaissez pas Vaquette, ça va être compliqué de vous le présenter en deux minutes, donc je vous invite là encore à vous tourner vers votre meilleur ami, votre ordinateur, parfois pour certains d'entre vous, public d'amour, votre seul ami. Et si vous le connaissez déjà, eh bien, vous êtes déjà convaincu, notamment par le très bon, je le reprécise, je gagne toujours à la fin, qui, à mon sens, qui a obtenu le prix Goya, figurez-vous, eh bien, qui, à mon sens, est un des meilleurs romans de la fin du XXe siècle, qui méritait quand même que le succès qu'il a connu. Mais bon, on trouvera des explications à ça dans le très beau joli plan fait, je le rappelle. Mon éditeur est un enculé, qui est aussi disponible tout à fait gratuitement et lisible sur le site de Vaquette. Du champagne, des putes et un cadavre, eh bien, c'est donc le tome 1 d'une œuvre... Sadienne dans le sens littéraire, au sens où on va avoir droit à des scènes d'action. D'action, je vous rassure, c'est pas Fast and Furious. Hein. Des scènes d'action qui vont se succéder à des scènes plus philosophiques et plus explicatives sur la nature même de notre oppression. Il s'avère que dans ce tome 1, on est plutôt dans l'action. Hein. Je pense que les scènes philosophiques vont arriver dans les tomes suivants. Vaquette est en cours, de création. Hein. Il est aujourd'hui, au moment même où nous parlons, il travaille sur les tomes suivants. Je crois qu'il a fait savoir que, fallait pas déconner, on allait attendre un petit peu quand même avant d'avoir le tome 2 parce qu'il avait besoin de vacances. Je pense aussi qu'il va dépenser l'argent qu'il a gagné avec le premier tome en cocaïne et en prostituée nain. Très probablement
au Bahamas. Et c'est d'ailleurs à cette occasion qu'il va vous inviter pour aller visiter les mythes abandonnés dans les Combrailles.
Car figurez-vous qu'une partie non négligeable du roman se passe justement dans la région des Combrailles. Cette région assez riante du fin fond de l'Auvergne où les gens sont encore à peu près cannibales, comme il faut bien le préciser, et où on n'a pas le choix quand on est là-bas entre devenir alcoolique, chômeur, consanguin, manifestement, ça c'est comme ça, adjoint municipal, policier municipal ou s'enfuir. Bref.
Ce qui est toujours mieux qu'être député à la République en Marche.
Ce qui est toujours mieux qu'être député de la République En Marche, mais du point de vue de son compte en banque, peut-être pas. Je ne sais pas. C'est une vraie question qu'on peut développer longuement. En attendant, de quoi parle Du champagne, un cadavre et des putes ? Eh bien, il se présente comme un roman finalement assez traditionnel et roman policier, assez picaresque, au sens où on voit avoir droit à une suite de personnages tous plus caricaturaux et plus désagréables et plus antipathiques les uns que les autres. Ça commence tout simplement par un meurtre. Une femme est retrouvée chez elle dans un appartement en colocation à Bourges. Le crâne explosé par un objet a priori dont on ignore tout. Et l'inspecteur qui va être chargé de l'enfer, tiens, c'est joli lapsus de l'affaire, pardon, eh bien, arrive à Bourges, ça s'est passé à Bourges, et puis va faire son enquête, tout simplement, reconstituer le passé de la victime. Il s'avère que la victime est une prostituée, mais pas n'importe quelle prostituée, il s'agit plutôt d'une escorte qui a tendance à se vendre sur Internet, elle n'était pas à la rue, il va saisir assez rapidement son ordinateur portable. Sur son ordinateur portable, il va trouver son blog qui n'était pas public, qu'elle tenait pour elle-même et qui va raconter sa vie. Et donc, on va suivre de façon assez classique une partie action, c'est-à-dire l'enquête de l'inspecteur qui va rencontrer les différents protagonistes de l'histoire, les colocataires de cette prostituée pour commencer, mais également les gens qu'elle a rencontrés, ses amants, ses ex-amoureux, ses parents, tous les gens qui l'ont côtoyé à un moment ou à un autre. Également son amant, son fiancé actuel, qui a priori est un homme extrêmement riche, qui vit dans un château retapé, qui est le fils d'une ancienne star américaine de la chanson, et qui, a priori, a tout pour lui. Il est grand, il est beau, il est intelligent, et manifestement, c'est lui le tueur, enfin, tout le désigne. Bref, tous ces gens-là vont apporter leur pierre à l'édifice, donc on va suivre cette enquête, et puis en parallèle, on va suivre aussi la vraie vie de cette prostituée qui s'appelle Alice et qui raconte sa vie à travers son blog. Tout ça est assez touchant puisque l'inspecteur évidemment a beaucoup de soucis, beaucoup de problèmes personnels qui vont se régler peu à peu ou pas du tout d'ailleurs au fil des pages. Donc finalement c'est un roman assez classique, en tout cas à la trame assez classique que nous propose Tristan et Edward Vinquette, un roman policier mais qui, on le devine et on le sait déjà, va contenir beaucoup plus de choses et le propulser effectivement à un niveau bien, bien supérieur à un simple roman de gare qui met en scène une simple enquête policière suite au meurtre d'une prostituée. On a affaire à un texte éminemment politique et puis un texte éminemment féministe. Alors vous allez me dire, c'est intéressant que ce soit un homme qui écrive un roman féministe, mais oui, mais c'est assez rare pour
mais,
être noté.
Mais c'est d'autant plus intéressant qu'en fait, un homme qui écrit un roman féministe dans lequel une femme est assassinée et c'est un homme qui mène l'enquête.
Oui.
Je suis curieuse.
Vous demandez à voir, effectivement, et vous ne serez pas déçus, notamment pour les passages où Alice, car c'est son nom, la prostituée assassinée, raconte sa vie qui commence justement dans les combrailles dont vous parliez tout à l'heure, avec des parents vraiment très très bas du front, et qui va essayer de partir, de s'enfuir, mais qui va commencer par aller à Paris, qui va connaître toutes sortes de déboires, la précarité, la vie de merde, pour finir à Bourges, là aussi avec la précarité, la vie de merde, des patrons aux mains baladeuses, des pourris partout, des exploiteurs, mais même pas des exploiteurs grandiloquents, juste des médiocres partout, qui vont abuser de la faiblesse à chaque fois qu'ils la rencontrent. Une Alice qui va être obligée à un moment donné de se prostituer pour tout simplement payer son loyer, coucher avec son propriétaire, pour rester dans sa misérable chambre de bonne mal chauffée. Enfin bref, là, la nullité d'âme de nos contemporains, la précarité à laquelle sont soumis la plupart des gens qui sont pauvres, tout simplement, dans ce pays de merde. C'est assez chouette, hein, comme livre, il y a un côté très très joyeux. Et on va découvrir peu à peu l'histoire personnelle d'Alice, avec des scènes qui sont réellement chef-d'œuvresque, notamment quand elle raconte sa première fois avec le garçon du village d'à côté, qui est un abruti, et elle raconte tout simplement son viol. Voilà, parce que sa première fois, c'est un viol. Elle met beaucoup de temps à l'accepter. Alors évidemment, dit comme ça, en deux mots, ça ne sont que des paroles qui sont assez éphémères et qui vont être diffusées à la radio, ou pourquoi pas réécoutées en podcast sur un ordinateur. Mais on a droit à des pages, à des pages, à des pages d'explications à la première personne de cette Alice qui raconte pourquoi c'est un viol, ce qui lui est arrivé exactement par le menu, et comment ça s'est produit, les suites, etc., etc., ce qui l'a amené à se comporter de telle façon. Enfin bref, une sorte d'introspection générale qui est assez stupéfiante. Et ces pages-là auxquelles je fais allusion, qui arrive à peu près vers le milieu du roman, sont littéralement stupéfiantes. Je n'ai jamais rien lu de pareil, en littérature francophone en tout cas, de ce point de vue-là, une écriture aussi crue, aussi directe, aussi immédiate, aussi méchante pour l'humanité, j'allais le dire, mais finalement, non, c'est pas méchant, c'est lucide. Par rapport à la nullité d'âme et à la médiocrité de nos contemporains. Et c'est là aussi où peut-être la seule critique que je pourrais faire de ce roman, c'est justement une certaine propension à la caricature, puisque les personnages que nous allons rencontrer sont systématiquement tous, à part deux ou trois, d'un détestable qui est difficilement surmontable. Donc je parle du propriétaire d'Alice, d'un de ses premiers petits amis, qui est devenu agent immobilier. Enfin bon, il y a des gens vraiment minables jusqu'au bout, de tous les gens qu'elle va côtoyer peu à peu, d'un patron à l'hippopotamus, non, parce qu'il y a aussi des scènes à Paris, rassurez-vous. Et ça va jusqu'à des gens qui lui veulent du bien, hein, comme une cousine qui est finalement assez sympathique, qui va l'héberger, mais qui a beaucoup de qualités, mais qui... finalement se démène dans cette vie de merde en essayant de s'élever socialement sans comprendre que les dés sont pipés et que de toute façon les riches resteront riches et que les pauvres resteront pauvres. Enfin bref, c'est une forme d'appel à l'insurrection, hein, que lance un peu Vinquette, même si par ce tome 1 on en est réellement qu'au début, et je pense que le roman va gagner en puissance dans les tomes suivants pour être un véritable brûlot contre à peu près toutes les formes d'autorité pour la libération de l'humanité au sens large, et particulièrement celle des femmes. Il y a aussi des passages qui vont se consacrer principalement à la prostitution. Donc là déjà, je pense que des gens comme Mona Chollet et Marlène Schiappa vont aller se rhabiller et peut-être avec un peu de chance se pendre, notamment par rapport à leur discours anti-pute qui est vraiment puant et réellement insupportable. Et bref, Vinquette sait de quoi il parle. Et moralité, politiquement, ce type est assez irréprochable et il nous fait un roman de ce point de vue-là tout aussi irréprochable, qui, à mon sens, pêche encore par ses excès caricaturaux, dans certains cas, mais qui est assez stupéfiant et dont certains passages, je le répète encore, notamment le passage de Alice qui raconte son viol et son rapport avec ce pauvre débile qu'il a dépucelé, vous saisissent à la gorge et vous font poser le roman à côté pour aller respirer un peu parce que quand même, la vie c'est compliqué. Il y a peu de romans qui font ça. Et Vaquette a ce talent-là, donc ça méritait d'être souligné. C'est un roman entièrement autoproduit, voilà, par une espèce de démon, de diablotin, punkoïde, anarchisant, situationniste que l'on recommande chaudement. Et vous le trouvez sur son site internet, hein, vaquette.org, du champagne. Un cadavre et des putes, ne vous arrêtez pas au titre provocateur, ou plutôt arrêtez-vous-y, parce que finalement c'est assez fidèle. C'est bon, c'est bien, c'est méchant, et c'est extrêmement et extraordinairement sain. Lisez-le. Vous avez quelque chose à dire, Yegor, je crois, non ?
Non, je me suis laissé bercer par... par vos paroles.
Ouais, et en attendant, la salle 100 s'est tellement laissée bercer par nos paroles que Alfred s'est endormi et que la salle 100 est en retard. Nous allons donc laisser la suite aux autres émissions de Fréquence Paris Pluriel. Et quant à toi, public, nous te donnons rendez-vous la semaine prochaine, même endroit, même heure. Ce sera beau, ce sera chaud, ce sera sensuel. Ce sera la salle 101 finalement.